Les ignorants sont bénis.
En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenche la tuerie au palais de la Syrie.
De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Un bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Bonsoir et merci à vous d'être à l'écoute de notre magazine d'infos du mardi. C'est tous les mardis. De 19 à 20h et ce soir, une nouvelle voix dans cette émission, une nouvelle voix de la rédaction de Radio Campus. Bonsoir Asma. Attends, bouge pas. Est-ce qu'on t'entend ? Vas-y. Oui, mais normalement je devrais t'entendre. Bonsoir Hassan, vas-y.
Bonsoir Hassan.
Mais bien sûr, on t'entend bien. Asma, donc nouvelle voix hein, sur cette antenne et dans cette émission. Dis-nous tout, qui tu es ? D'où viens-tu, tout ça ?
Je suis Asma, je suis orléanaise et je découvre Radio Campus depuis quelques mois. Mmh. Voilà.
Et déjà des choses hein, dans la boîte. Hein, on va écouter un extrait tout à l'heure d'une interview de Maboula Soumaoro, qui est professeur, je crois, d'anglais,
oui.
De civilisation américaine, en tout cas à l'Université
Exactement.
De Tours, Ami Tourangeau. Cette émission vous concerne un petit peu aussi, vous le savez. Et c'est une émission qui sera diffusée, une interview qui sera diffusée plus tard.
Ouais, elle est diffusée vendredi.
Dans le cadre d'Afrodite.
À midi, ouais, dans le cadre de la semaine spéciale féminisme.
Féminisme. Voilà. Voilà. Mais on aura l'occasion dans l'émission hein, que tu nous reparles
Absolument.
Un peu de toi. Des voix que vous connaissez déjà, Monsieur Steven, bonsoir.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à toutes.
Pour ton papier qui aujourd'hui, sur l'actualité qui concerne ce qui s'est passé hier.
Non, il s'est passé un truc hier.
Il paraît, vote historique, mais si, il faut le dire très très fort d'ailleurs.
Oui, oui.
Vote historique, l'IVG.
Premier pays de l'Union Européenne.
Du monde même, non ?
Oui.
Du
oui,
monde.
On pourrait dire du monde. Ouais.
Victor, vas-y.
Vous m'entendez ?
Oui, mais avec un souci, est-ce qu'il faut pas... Il faut que tu changes de micro, non, attends, vas-y, vas-y.
Allô, attends, je vais changer de micro.
Souvent, hein, avec toi, vas-y, là, que je vois.
Ça marche mieux, là ?
Oui, attends.
Oui, ça marche mieux, oui, on m'entend. Ah, oui, bonsoir à toutes et à tous. Petit quiz comme ça, juste pour savoir, est-ce que vous savez quel est le premier pays du monde à avoir autorisé l'IVG ?
C'est un pays auquel on s'y attend pas du tout,
et
il
oui.
me semble.
Le Népal.
Non, pas du tout.
Je ne sais pas.
L'URSS.
C'est vrai ?
Oui.
Ah ben, bah, ça ne m'étonne pas. Enfin, j'aurais pu
dans les années 20.
Ouais, j'aurais pu le savoir.
pu le savoir. De quoi parle-t-on dans cette émission ? À vrai dire, on aurait dû avoir la présidente du planning familial, qui est orléanaise, Sarah Durocher, qui n'a pas pu se joindre à nous. Mais on a fait une émission bis, donc deux sujets sur la vie universitaire. C'est à Orléans, en cette semaine de vacances. Le premier sur le déplacement à Orléans il y a quelques jours de l'ambassadrice de la République dominicaine en France, Madame Rosa Hernandez de Gruyon. Elle était de passage à Orléans pour un don d'une centaine de livres destiné à créer un fonds documentaire dans le cadre de la chaire universitaire sur les Sœurs Mirabal. On en a parlé dans cette émission il y a quelques semaines avec la directrice de la chaire, Catherine Pellage. On écoutera l'ambassadrice et aussi quelques étudiants, je crois. Autre sujet lié à l'université, la présentation de deux cursus master en droit, économie et gestion. Des étudiantes que j'ai pu rencontrer lors de la journée Portes Ouvertes, on parlera du master droit social et gestion des ressources humaines. Ouais. Et l'autre qui est le... DAF, c'est droit des affaires.
Droit des affaires. Ouh.
Droit des affaires.
Ça a l'air trop bien.
Financière. Quoi boum, quoi boum. Écoutez, vous apprenez des choses, les jeunes hommes.
Oui, sûrement.
À bâton rompu, c'est jusqu'à 20h. Merci d'être avec nous.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Steven.
Oui.
Il s'est passé quelque chose hier.
Oui, effectivement, il s'est passé quelque chose. Hein. Et il en a fait ce droit à l'avortement, hein, depuis la légalisation avec les actions de Gisèle Halimi et Simone Veil. Hein. Ce lundi, donc, le Congrès a voté pour l'inscription de ce droit dans la Constitution. Chose que je ne dis pas souvent, vous allez être choqués, hein, mais bravo au travail parlementaire. Oui, je sais, ça choque. Après, c'est surtout bravo au travail des associations et des militantes qui ont lutté année après année pour ce droit. Au passage, mention spéciale pour CNews aussi, hein, avec son graphique nous expliquant que la première cause de mortalité dans le monde est l'avortement. C'est une dinguerie.
Mais ils ont fait
en
ça...
2024, tu te rends compte ?
Ils ont fait ça sérieusement. Hein,
c'était sérieux.
Il y a 15 jours.
Hein.
Ouais.
Moi, la semaine prochaine, je viens avec un graphique montrant la proportion de gros bâtards au service de Bolloré. Petit indice, il y a un cercle tout rond. Moi, je trouve ça ouf de faire un truc comme ça. Hein. Et aussi, mention spéciale pour les excuses qu'ils ont présentées par la suite, où ils ont expliqué que c'était une erreur technique.
Oui.
Hein, visiblement, ils se sont trompés de version. Bah, niquez-vous. Hein. Excuse-moi, Hassan, c'est une erreur technique. Je suis désolé. Mais niquez bien vos morts et fermez votre gueule et arrêtez de respirer aussi. Et c'est une erreur technique, ça. C'est une erreur technique.
Hein. Monsieur Larcom, on s'excuse.
C'est une erreur technique. C'est pas moi. Voilà, je me suis trompé de version aussi. Non, mais CNews, c'est pas de la censure dont ils ont besoin. Je crois que c'est des claques, en fait, tout simplement. Bon, on a assez parlé de ces cons. On va parler de l'IVG dans la Constitution. Donc, ça donne quoi ? Alors, déjà, il s'agit de la liberté d'avoir recours à l'IVG et non d'un droit. En soi, c'est déjà un recul. Un droit, c'est une créance à l'égard de l'État, alors que la liberté va demander des combats pour qu'elle soit effective. La question de la contraception n'est même pas abordée aussi, donc point aussi négatif. Pourtant, tout ça est très lié. De même que tout ça est très lié à la question du viol, qui est en ce moment débattue au niveau européen. Hein. Enfin, finalement, l'article a été écarté du projet de directive. Hein, donc, une nouvelle tragédie.
Ah bon, hein. Oui. Sur le viol ?
Oui, je l'ai appris sur Mediapart.
Voilà. Ah bah nickel, voilà. Bah bravo les gens.
Nickel. C'est une tragédie, hein, parce que accepter de redéfinir le viol, c'est aussi accepter de s'attaquer à l'institutionnalisation de la culture du viol. Une culture que l'IVG vient aussi remettre en cause en redonnant aux femmes la maîtrise de leur corps.
Carrément.
On pourrait aussi s'interroger sur la définition de la femme que retient la Constitution. Hein. Aux yeux de la Constitution, la femme, c'est une personne considérée comme telle dans son état civil. Pourtant, le Conseil d'État était venu dire que la femme doit s'entendre de toute personne ayant débuté une grossesse sans considération tenant à l'état civil. Mmh. Bon, c'est déjà mieux parce que cette formulation, elle inclut les hommes transgenres qui sont, aux yeux de la Constitution, des femmes. Bon, ça reste quand même une disposition un peu transphobe, hein, qui identifie les femmes à travers leur seule capacité reproductive. Une juste formulation, peut-être, aurait été d'inscrire le droit pour des individus de recourir à l'IVG. Mais est-ce que l'IVG, qui existe depuis 1975, hein, dans le système législatif, est menacée au point de devoir l'introduire dans la Constitution ? C'est ce qu'avait soutenu Gros Larcher. Oh putain, erreur technique, hein. Les manifestations dites pro-vie, les plannings familiales attaqués, les députés et les sénateurs, notamment d'extrême droite, qui ont une vision d'avant la loi Veil et les déserts médicaux, hein, la remise en cause de l'IVG est réelle, d'autant plus réelle que, rappelez-vous, Emmanuel Le Fourbe parlait, souvenez-vous, d'un réarmement démographique pour la France, une formulation qui laisse envisager le pire. Oui, mais la Constitution, c'est pas un catalogue de droits et de libertés, etc., etc. Ceux qui avancent cet argument, je me demande s'ils savent ce qu'est la Constitution. Aujourd'hui, notre Constitution est composée de plusieurs textes, l'ensemble étant appelé le bloc de constitutionnalité. Mmh. Dedans, on trouve la Constitution de 1958, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, la Charte de l'environnement de 2004 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Mmh. Maintenant, bande de connards, allez lire tout ça et revenez me dire qu'il n'y a pas un catalogue de droits, bande de filles. Erreur technique. Alors, qu'est-ce que ça implique, l'intronisation de la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution? Encore une fois, tout dépend. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, ce droit était garanti par la loi, sauf qu'une loi peut très vite tomber dès lors que le Parlement ou le gouvernement le décide. Introduire l'IVG dans la Constitution rend les choses plus compliquées. Bah oui, on ne réforme pas la loi de la loi comme la loi. En quelque sorte, on met ce droit hors d'atteinte des caprices des classes dirigeantes. Mais est-ce que cela va garantir l'effectivité du recours à l'IVG? Bah ça, c'est pas sûr. La Constitution, elle s'applique pas directement. Des lois viennent encadrer l'exercice de la liberté, des libertés contenues dans le bloc de constitutionnalité. Bah, par exemple, la liberté d'aller et venir, elle est encadrée et soumise à restriction. L'exercice de la liberté de recourir à l'IVG demandera forcément un texte législatif pour sa mise en œuvre. Et tout cela dépendra des lectures politiques, même si on a déjà un corpus de textes en ce qui concerne ce droit, cette liberté. Ensuite, il faut savoir qu'aucun droit, qu'aucune liberté n'est éternellement acquise. Nos droits, nos libertés sont constamment menacés. Dans le cas de l'IVG, on a vu fleurir de nombreux groupes anti-avortement, des mouvements ayant très souvent des relents religieux. Je ne crois pas que les fachos ils aient déjà été fans de l'émancipation de la femme un jour dans leur vie. On peut encore citer le manque de moyens, notamment dans les hôpitaux, pour les associations spécialisées, la résistance des médecins, les entraves imposées aux sages-femmes ou encore les entraves intrafamiliales. Pour toutes ces raisons, il est important que la société civile veille au respect des droits et des libertés. Alors effectivement, on a la justice qui joue un rôle dans ce devoir de vigilance, mais on ne peut pas uniquement confier cette tâche à quelques personnes qui peuvent avoir une lecture très personnelle de nos droits. Malgré toutes ces observations, félicitations pour les mouvements féministes et sociaux pour avoir atteint une étape capitale. Mais restons vigilants et vigilantes afin que tous ces efforts ne soient pas vains. Et les masculinistes, les fachos et toutes ces autres conneries, allez vous faire foutre. Ah putain, erreur technique.
C'est ça. Tu mériterais que je mette des bips pour la rendre inaudible. En tout cas, bravo, je te rejoins là-dessus. Bravo pour tous ces mouvements féministes. Un vote massif quand même. 780 pour, parlementaires pour, contre seulement 72. Mais allez voir sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver la liste des parlementaires qui ont voté contre ça.
Extrême droite.
Quelques-uns, mais même il y a LR aussi.
Oui, LR aussi. Oui,
les conservateurs, quoi, comme d'habitude, c'est toujours les mêmes.
Toi aussi, tu mériterais que je te bipe. D'ailleurs, je te bipe tout de suite avec ce super morceau. Écoutez ça, ça sort, c'est sorti. Vous connaissez Féfé ?
Oui.
Le grand Féfé. Il sort un nouvel album, Hélicoptère. Et là, il est avec Luisa, une chanteuse brésilienne. Ça s'appelle Quelque part. Écoutez-moi ces paroles.
Tonton David serait loué, tel un Charles traînait. Pour l'honorer, on n'attendrait pas que trépasse Pierre Perret. Et les Cassaves seraient nos Bolloré si l'industrie de l'Asie en faisait quelque part. Comme l'eau tombe du ciel, on la paierait pas. Nestlé boufferait des pâtes, les iPhones seraient du genre qui se répare et te dure des années folles si l'on nous prenait pas pour des pigeons quelque part. Une fois, deux fois et allez hop, dehors. Nos élus auraient le même poids que toi, moi, le même salaire par mois. Et nos voix vaudraient de l'or si la démocratie en était une quelque part. J'ai vécu dans un ring, gauche-droite dans le coin. Sans jamais répondre au king, j'osais pas. Mon père c'était quelqu'un et je me demanderais toujours si malgré les coups, papa m'aimait quelque part. Resterait plus longtemps que le faussaire. Dubaï ne serait pas tendance malgré tous les travaux forcés. Et l'ex-président perdrait son procès s'il y avait une justice quelque part. La haine serait illégale, on s'en foutrait que tu sois gay. Nord-Sud à égalité, le fric une folie de naguère. Et le rêve de Martin une réalité si l'on était plus humain quelque part. Salam shalom ne donnerait pas d'armes à un homme. On n'en serait pas là, prier l'un contre l'autre, ça alors. Et tous les chants détrôneraient le bruit des calaches si Dieu s'était pas déjà barré quelque part.
J'ai deux enfants faits avec amour dont j'aime m'occuper. Deux autres faits autrement qui n'auront que du pèse. Et je me demande si elles auront un jour dans le cœur de quoi me le pardonner quelque part.
Totalement, totalement fan depuis l'époque Sayan Supakru Fefe. L'album Hélicoptère que j'ai écouté hier et réécouté aujourd'hui. Allez écouter Hélicoptère avec pas mal de punch comme ça. Fefe, Hélicoptère et à l'instant, quelque part, dans À Bâton Rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours.
À Bâton Rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Tous les mardis de 19h à 20h.
Nous y sommes. Asma.
Oui.
À nous. On a dit que tu avais interviewé.
Mabula Soumaoro. Oui.
Redis-nous qui elle est.
Mabula Soumaoro, enseignante, maîtresse de conférence à l'université de Tours, prof en civilisation anglophone.
Alors, on redit également que tu l'as interviewé dans le cadre d'Aphrodite, hein, qui est un.
Oui.
Voilà, un moment radiophonique pour Radio Campus. Tous les ans, il y a comme ça un événement autour des femmes.
Voilà, la semaine du 8 mars, oui. La journée des femmes.
Et des minorités de genre.
Et des minorités
oui,
de genre,
pardon.
Faut le dire.
Merci.
Aussi. Et d'ailleurs, tu as répété, parce que je me plains tout le temps, LGBTQIA+.
Plus.
Ah oui, je savais que j'allais planter. Merci en tout cas de m'aider quand même. Voilà.
Donc voilà, programmation spéciale sur la radio avec pendant toute la semaine, il y aura des sujets qui vont être cinéma féminin, féministe. Et là, pour Mabula Soumaoro, c'est littérature féministe.
Et tu lui as. Alors, la première question, c'était quoi? Parce que j'ai écouté sa réponse hein, tout à l'heure, mais voilà, c'était.
La première question, je lui ai demandé de revenir un peu sur. Son éveil oui. Féministe
c'est ça, c'est
quand
ça.
Elle est étudiante ouais. Et surtout quand elle part aux États-Unis.
Écoutez cette réponse.
Ce que j'ai pu comprendre assez tardivement, c'est que j'avais été baignée dans des associations de femmes, des associations que je ne qualifiais pas de féministes non plus, mais en tout cas des associations de femmes on va dire environnement familial et culturel. Donc moi j'ai une mère qui a présidé pendant longtemps. Et depuis que j'étais petite, une association de femmes de notre ville d'origine, voilà, qui avait des activités très souvent le week-end et que j'ai jamais identifiée comme féministe, par exemple, ou que j'ai jamais identifiée comme peut-être une association d'importance ou qui était l'équivalent de ce qui était défini comme féministe. Et dans le contexte français, il y avait vraiment pour moi l'association entre féminisme et femme blanche bourgeoise. Et comme moi j'ai grandi et que je ne suis toujours pas, ni blanche, peut-être que je suis bourgeoise aujourd'hui, c'était vraiment des choses qui me semblaient complètement hors de portée. C'est-à-dire que si vraiment je pense donc à ma petite enfance, les années 80 ou après le jeune âge adulte dans les années 90, les questions autour, par exemple, de la contraception, la question autour de, je ne sais pas moi, la contraception, les pilules, la sexualité, l'accès au monde du travail, ce n'est pas mes questions. Parce que nous, on est de culture musulmane, très ancrée. Donc la question de la sexualité, elle était assez taboue. Donc voilà, ça, quand on parlait des plannings familiales ou des choses comme ça, c'était des choses, si je devais y avoir accès, c'était en cachette, c'était pas du tout en accord avec mon monde ou ma famille. Après, aux États-Unis, donc, ce qui a vraiment été déterminant dans l'établissement de ces liens que j'ai fait beaucoup plus tard, c'est vraiment l'accès au féminisme noir. Donc la tradition féministe noire états-unienne, des fois tiers-mondiste selon les périodes, ce double cette double rupture avec le mouvement pour les droits civiques et les, on va dire, le sexisme et le machisme des Noirs africains-américains et l'évitement de la question raciale ou la non-compréhension de la question raciale avec les mouvements traditionnels, enfin, traditionnels blancs américains, l'introduction de la question sociale, la question des orientations sexuelles et du genre, ça, c'est vraiment le féminisme noir. Et à partir de là, il commence à avoir une identification par rapport à ma propre histoire et ma propre trajectoire.
Et fan également de Mabula Soumaoro. Vous pourrez retrouver des vidéos d'elle où elle parle, elle dit des choses comme c'est essentiel. Et surtout, vous revenez sur cette antenne vendredi prochain pour écouter la totalité de cette interview.
Oui. Ça sera vers midi, mais ça sera... à écouter en replay sur le site de
Absolument,
Radio Campus.
Absolument, podcast. Ouais. Steven, tu la connais également. Hein,
oui, je l'ai beaucoup suivi, moi, mais alors pas sur les questions féministes, précisément, même si après, elle en a pas mal parlé. Hein. Mais c'était surtout tout cette identification des Noirs issus de la diaspora,
oui,
en fait.
Bien sûr.
Elle en a beaucoup parlé de ce sujet-là. Mmh. Elle a développé un truc qui s'appelle les Afropéens, dont elle a parlé aussi. Et puis c'est elle quand même qui a amené le Black History Month en France.
Tout à fait.
Donc voilà, et puis je l'ai découvert après avoir découvert... enfin, à peu près après avoir découvert Angela Davis avec les questions d'intersectionnalité.
Mmh.
Bah oui,
sûr,
oui, parce qu'elle est partie aux États-Unis et elle a travaillé là-bas, là-dessus. Mmh. Et Angela Davis était revenue, en fait, dans tout ce parcours-là.
Bon. Dans ce qui est à venir pour toi, Asma, ça se passe également à Tours. C'est quand, c'est avec qui, c'est quoi?
Alors, c'est ce dimanche 10 mars, c'est un documentaire de Christine Angot qui s'appelle Une famille, qui sort très prochainement en salle. Et elle se rend à Tours après la séance. Voilà, la séance aura lieu. Et après, elle rencontre le public. Donc, je vais essayer de l'interviewer, de discuter avec elle. Le documentaire n'est pas encore sorti. C'est pas encore possible. Il est à peine sorti en salle, tout juste là, dans les jours qui arrivent. Donc, voilà, à découvrir. Il y a une bande-annonce qui est très intéressante sur YouTube. Ça s'appelle Une famille.
Et ça parle de quoi alors?
De
sa vie à elle. Hein.
Voilà.
Je crois que j'avais... un livre est sorti, non, sur... elle avait écrit sur l'inceste.
Oui, ça reprend un peu toute son œuvre. Christine Angot, elle est quand même connue pour avoir écrit sur l'inceste, sous différents angles. C'est assez étonnant parce que c'est toujours défendu contre à la fois l'autobiographie et l'autofiction.
Oui, bien sûr.
Elle a toujours revendiqué une place de la littérature qui est ni dans l'un ni dans l'autre. Mmh. Et là, Une famille, c'est vraiment elle, quoi. C'est vraiment elle. On voit sa mère, on voit sa fille, on voit le père de sa fille. Et c'est un peu tout ce qu'il y a derrière enfin, d'après la bande-annonce en tout cas, on suppose que ça retrace le fond de l'inceste. Comment ça a impacté sa relation à sa mère, comment sa relation à sa fille, au père de sa fille. Voilà, ça a l'air très très intense.
Et ce documentaire ne sera diffusé qu'en salle de cinéma, hein, c'est
ça ? Oui. Ouais. Il sort ces jours-ci, dans la semaine.
Eh bien, on attend avec impatience ton interview dans cette émission.
Un retour.
Dans 15 jours, maintenant.
Voilà, oui.
Merci exactement. À toi d'être venu dans Bateau Rompu ce soir et à très vite.
Merci à toi, Sam.
Tu connaissais Victor Emaboula,
pas du
Christine Angot ?
Non, du tout.
Bon, le sociologue, il dit quoi?
De quoi sur la question de l'inceste? Moi, ce que je me rappelle vaguement de mes cours d'anthropologie, c'est que l'inceste, en fait, c'est la première marque de civilisation. Mm. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on définit des personnes avec lesquelles on ne peut pas s'allier charnellement, qu'en fait, on détermine la civilisation et qu'on sort, en gros, du stade primal, animal, primitif.
Quoi. Instinctif.
Et du coup, toutes les civilisations de par le monde, tous les peuples, toutes les tribus, ont des règles d'inceste qui sont complètement différentes les unes des autres. Des fois, ça va être un inceste lié, par exemple, au totem. Moi, je me rappelle de mes cours d'anthropologie, du coup, quand j'étais en master, où effectivement, par exemple, si jamais quelqu'un a un totem de l'ours, eh ben, il peut pas s'allier avec un totem de l'aigle, parce que du coup, c'est considéré comme étant des totems qui sont pas compatibles les uns avec les autres.
Je vais te dire un truc, il y a ça aussi en Afrique noire. On a, on a chacun un totem dans les familles et on peut pas les. D'abord, en animaux, et on peut pas les manger. Et moi, je m'en fiche parce que c'est l'écureuil. Mais par contre, il y a des gens qui ont
des... Si tu tombes sur la vache ou...
J'ai des copains dont le totem de famille est la vache. Ouais, donc ils ont un peu souffert. Mais ouais, bah oui, c'est intéressant ça. Il y a des livres, non, écrits sur les totems et tout ça.
Il n'y a pas de totem et tabou de Freud
si.
Bon, oui, c'est vrai, j'en ai entendu.
Après, ce n'est pas un anthropologue, mais moi, je pensais plutôt à... Au processus de civilisation, de... Non, je confonds. Ouais. Non, bah, globalement... comment il s'appelle ?
Lévi-Strauss.
Lévi-Strauss, c'est ça.
Les liens de la parenté.
Les liens de la parenté de Lévi-Strauss, c'est d'ailleurs ça. Merci.
Bon, dans un instant, nous allons écouter... alors, elle s'appelle... j'ai les noms. Aslam, je crois. Aslam et Sacha, qui sont étudiantes en droit. Aslam est présidente de l'association... Master 2 DAF, droit des affaires, et Sacha est en master droit social et gestion des ressources humaines. Je les ai rencontrés lors de la journée portes ouvertes, je vous disais, parce que j'avais axé mon reportage sur des informations qu'on avait eues 3-4 jours avant, disant que en termes d'accès au milieu professionnel, quoi. Enfin, voilà, la professionnalisation, c'est le terme. Les masters à Orléans se portaient plutôt pas mal, l'université troisième sur le podium quand même. Et je les ai rencontrés. On écoute tout ça après le jingle que voici. Mais non, il faut que j'appuie sur un bouton, je crois.
Et c'est ça. Abattons rompus, 19h-20h sur Radio Campus Orléans.
On salue Mouka qui m'a fait ce jingle et qui nous écoute de temps en temps. Voilà, voici Aslam Aksa et Sacha Clément. Si j'appuie sur un bouton.
Moi je m'appelle Aslam Aksa, je suis la présidente de l'association Master 2 DAF. Aujourd'hui, donc à la journée portes ouvertes d'Orléans, on a reçu plusieurs étudiants de différentes villes, notamment une étudiante de Chartres qui était intéressée par le parcours DAF, qui est propre à l'Université d'Orléans. C'est un diplôme, un master double mention. Donc ça l'intéressait vraiment et ça a suscité son déplacement jusqu'à la journée porte ouverte et je trouve ça génial. On a pu la renseigner, notamment d'autres personnes. Donc voilà.
Moi, c'est Sacha Clément, du master droit social et gestion des ressources humaines.
Et vous avez également reçu des étudiants qui venaient de...
Ah oui, on en a reçu de vraiment un peu partout, principalement Tours, on a aussi eu Paris. Normalement, on a la petite liste, mais on en a reçu vraiment de partout. On attend aussi une candidate de Rennes qui nous avait prévenu qu'elle viendrait. On a aussi une candidate de Bruxelles. Donc on essaye d'avoir vraiment un rayonnement national, voire international, du coup. Le but, c'est d'avoir des candidats éclectiques avec des profils intéressants. Et notre master étant intéressant et avec qui cherche vraiment des profils professionnels, avec des expériences atypiques.
Justement, vous proposez quoi dans votre master ?
Alors, le master droit social et gestion des ressources humaines d'Orléans, c'est le premier master double compétence de France. C'est un master qui allie le droit social, donc le droit du travail, pour dire vulgairement, et la gestion des ressources humaines, qui sont vraiment des composantes essentielles du travail aujourd'hui, en entreprise, en cabinet, d'avocat, partout. C'est un master qui propose énormément de choses, qui propose une coopération très importante, qui fait partie du master, qui fait part intégrante. Le but, c'est vraiment d'apprendre un maximum de choses, un maximum de compétences et d'avoir une employabilité optimale.
Justement, alors la question se pose à vous deux. Nous avons reçu des chiffres, là, il n'y a pas longtemps dans les médias, qui parlent du taux d'employabilité des masters. Et Orléans, l'université d'Orléans, se place troisième au niveau national. C'est le cas dans vos masters ?
Je peux commencer avec le master DSGRH. Effectivement, nous, on a un taux d'employabilité qui est immense. On est à presque 100% au bout d'à peine 6 mois en sortie de master, avec des postes très intéressants. On a ceux qui ne sont pas en fait en poste, c'est qu'ils préparent des concours. Donc, tous ceux qui veulent être en emploi sont en emploi. On a vraiment des profils intéressants. La double compétence, ça permet vraiment d'avoir une employabilité optimale aujourd'hui, que ce soit à Orléans, mais aussi partout en France. On a des étudiants qui viennent de partout et qui retournent partout, du coup.
Alors, pour répondre à votre question, à l'issue du master DAF, tous les anciens ont trouvé un travail. Ceux qui n'en ont pas trouvé un, c'est qu'ils n'ont pas cherché, justement. Beaucoup souhaitent donc continuer soit par un parcours en école de commerce, donc soit un master spécialisé ou un cursus qui va leur permettre de compléter ce master, ou d'autres qui préparent des concours. Mais en intégralité, moi, ce que j'ai compris, c'est que énormément d'anciens ont trouvé un travail et à des échelles très très importantes. Donc on a par exemple beaucoup d'anciens qui sont à EY Luxembourg. C'est un partenariat donc avec le master de DAF et c'est quand même une échelle internationale importante. Donc voilà.
Vous parliez de double compétence, c'est quoi ?
La double compétence, effectivement, proposée par le master, c'est qu'on est à la fois un master de droit, on propose d'ailleurs particulièrement à des juristes, mais on a aussi toute cette partie ressources humaines qui fait d'ailleurs qu'on a de nombreux RRH, voire des DRH qui sortent de notre master. On a vraiment des postes très intéressants à la sortie et des possibilités d'évolution sublimes, je pèse mes mots. On a un éventail de postes très important. Alors on peut penser, on a des inspecteurs du travail qui viennent de chez nous, on a des juristes en entreprise, on en a qui passent le concours d'avocat et qui le réussissent bien évidemment. On a de tout, on a des juristes aussi en cabinet d'avocat, on a du coup des RRH, des DRH qui viennent de chez nous. On a une variété de postes très importantes et qui viennent grâce à la double compétence qui est un attrait du master et qui fait qu'on n'est pas comme tout autre master de droit social en France.
Le master DAF aussi a une double compétence, donc droit des affaires et fiscalité. Nous, c'est un peu plus différent que les autres masters. On a trois grandes matières et que ça. Donc, on va se focaliser sur le droit des sociétés, droit des entreprises en difficulté et droit fiscal, ce qui va permettre de déboucher sur des emplois qui concernent que ces filières-là. Mais ça peut être intéressant dans le sens où si vous finissez juriste d'entreprise, bah, vous pouvez travailler en droit des affaires, en droit des sociétés, en droit fiscal, et c'est ce qu'un employeur cherche, quelqu'un qui est polyvalent, qui peut travailler sur plusieurs dossiers en même temps. Donc voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'un des seuls masters droit des affaires double mention fiscalité. Donc c'est intéressant et c'est propre à l'Université d'Orléans. Et on a des directeurs de master qui sont très très bons dans ce qu'ils font, qui ont plein de connaissances, qui font tout pour qu'on ait un niveau bon, même si on est de l'Université d'Orléans.
Une dernière question pour vous deux. Est-ce que vous avez commencé toutes les deux en première année à Orléans?
Alors effectivement, oui, moi j'ai commencé à Orléans. Après mon parcours, le master DSGRH, il est ouvert à tous. C'est d'ailleurs l'une de ses principales qualités. Il veut vraiment s'ouvrir à tous les candidats, qu'ils soient nationaux, même transnationaux, qui viennent d'Orléans ou d'ailleurs. Ce sont vos profils qui intéressent et non pas là où vous venez. C'est vos compétences. On a des directeurs de master très, très impliqués, très, très à l'écoute de nos profils, de nos envies et de nos besoins. On a un master qui se passe en alternance. Alors, on a possibilité de faire une alternance dès le M1 et qui est obligatoire en M2. Et on a vraiment une écoute attentive au niveau de nos missions, qui sont elles aussi double compétences. Et donc oui, moi je viens de l'Université d'Orléans, je suis restée par choix et j'y resterai avec grand plaisir puisque c'était mon premier choix et ça restera mon premier choix.
Alors moi j'ai fait ma licence à l'Université d'Orléans, j'ai fait une licence droit européen qui était dispensée à 50% en anglais. C'était un plus pour mon master parce que le droit des affaires, il faut des prérequis en anglais. Je suis polyglotte, je parle 6 langues, donc j'avais vraiment le profil pour être acceptée dans ce master. Et je ne regrette pas d'être restée parce que moi, je suis quelqu'un, je voyais grand et je voulais partir d'Orléans. Pour moi, Orléans, c'était une petite ville. Mais arrivée en master 2, je me rends compte que j'ai fait le bon choix puisque c'est un master qui a une bonne réputation auprès des employeurs, que ce soit au Luxembourg. En fait, quand on pense à Orléans, on se dit c'est la province et que ça va me bloquer mon projet pro si j'envisage d'intégrer un cabinet à Paris. Ils vont se dire, ah ouais, Orléans, non. Eh ben non. Moi, je ne regrette pas parce que aujourd'hui, je vais faire mon stage de fin d'études à Paris dans un cabinet qui me plaît, dans une filière que je voulais faire. Et j'ai eu un suivi de mes directeurs de master qui était très très complet. Ils m'ont aidé à choisir donc un stage qui me correspondait, qui correspondait à mon profil de polyglotte. Et ça, c'est très rare dans les masters, des directeurs de master qui vous encouragent à continuer sur la lancée que vous avez prise en master 1. On a également énormément d'étudiants d'autres villes qui intègrent le master DAF. Par exemple, Hugo qui vient de Lyon. Donc, faut pas se dire que Orléans, c'est la roue de secours de tous les étudiants. Non, pas du tout. Il y en a, c'est leur choix d'intégrer le master DAF parce que tout de même, c'est un master très sélectif et très élite, on va dire. Nous, les affairistes, on a tout de même une image de perfectionniste. Donc, voilà.
Donc voilà, Hugo était à côté, hein, il opinait du chef, il disait oui de la tête. Hugo est venu de Lyon quand même pour faire ses études de droit. Aslam Aksa, présidente à l'association Master 2 DAF, droit des affaires, et Sacha Clément, Master droit social et gestion des ressources humaines. Je ne sais même pas si je veux vous laisser la parole, Victor.
Non, mais c'est voilà, pas. C'était juste que bon, elles étaient en représentation face à un journaliste. Donc du coup, forcément, enfin, on dit pas du mal de son master face à un journaliste.
Mais après, j'ai été séduit. D'ailleurs, je m'inscris. Oui. En droit des affaires.
Ouais, c'est sûr. Il y a des super bons profs en droit des affaires, surtout à Orléans.
Tu connais le cursus, toi?
Oui, moi j'ai eu Monsieur Wang, un très bon prof de droit des sociétés. C'est de l'ironie, hein. C'est pas du tout un bon prof.
Mais voilà. Mais c'était pas ton.
Non, c'était pas mon directeur de master. Non, parce que moi j'ai fait du droit public, donc, droit des sociétés, j'en ai pas fait en master, j'en ai fait qu'en licence. Ouais. Mais voilà, après, bon, effectivement, elles sont dans un discours un peu. Avec tout leur discours de méritocratie, ce genre de choses, de conneries c'est ça qui m'agace.
Mais il faut que ça existe quand même, non?
Ce genre d'élitisme un peu bourgeois qui me.
Ouais, c'est vrai,
c'est ce qu'on retrouve à l'université, et particulièrement en droit des affaires.
Mais la preuve est qu'ils sont troisième. Enfin, c'est presque 100%. Je trouvais que c'était.
Oui, moi, je te bien dire, sauf ceux qui n'ont pas pris la peine de chercher, quoi.
C'est ça.
Quelle bande de feignasses.
C'est ça. Un peu de musique et on revient pour le dernier sujet de. On va finir un peu plus tôt cette émission puisque notre invité principal nous a fait faux bond. C'est aussi une nouveauté. Le groupe s'appelle Delgrès. C'est un groupe français composé de Domien et de Métropolitain. Et il mélange le rock avec un petit son des îles. Leur dernier album contient ce samedi soir, ça s'appelle.
Nous caler. yo po fini. Et au soir la mandim, m'en parle pour foutre.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
En novembre dernier, et nous en parlions dans cette émission, la faculté lettres, langues, alors je ne sais pas dans quel sens. Asma, dis-moi, langues, lettres, sciences humaines.
Lettres et langues, moi je
lettres,
suis.
Lettres, langues, sciences
pas
humaines.
À la fac d'Orléans. Ouais.
Bon, en tout cas, oui, c'est ça.
Mais généralement, on dit lettres et langues.
Voilà, lettres, langues, ou dans le sens contraire, accueillait cette chaire d'études culturelles dominicaines des sœurs Mirabal. Tu connais l'histoire des sœurs Mirabal?
Non.
Eh bien, va te renseigner parce que c'est une histoire qui est dingue. C'est trois sœurs dominicaines de la République dominicaine qui, parce qu'une des sœurs avait plu au dictateur Trujillo à l'époque, trouveront la mort parce que la sœur refusait de se donner au dictateur. Et le jour de leur mort est aujourd'hui, en novembre, donc la journée contre les violences faites aux femmes, en fait. Et la semaine dernière, l'ambassadrice de la République dominicaine était en visite à l'Université d'Orléans pour faire don d'une centaine de livres pour cette chaire, avec des livres très rares de la République dominicaine. Nous y étions et l'ambassadrice de la République dominicaine, c'est Rosa Hernandez de Grulon. Je lui ai demandé à quoi servait ce don. Écoutez sa réponse. Non, pas du tout. C'est pas ça du tout. Ça, c'est Delgrès qui repart. Écoutez la réponse. Alors, qu'est-ce qui se passe? On s'installe. Bon, bah, voilà, on s'installe. On écoute donc l'ambassadrice de la République dominicaine en France.
C'est réellement une collection de livres de instituciones que se dedican a difundir la cultura de la República Dominicana, como es el Banco Central, que tiene un departamento cultural. Entonces los autores dominicanos, a través de esa institución, pues ellos le publican todos los temas culturales que están manifestados acá. Otra parte est, par exemple, la collection du Banco Popular Dominicano.
Oui, donc il s'agit de livres qui ont été donnés par des institutions extrêmement prestigieuses en République dominicaine et des livres donc, qui représentent la culture de République dominicaine. Et Madame l'ambassadrice insistait sur ce qu'on appelle l'économie naranja, l'économie orange, qui est l'économie culturelle qui est en train d'être développée en République dominicaine. Et donc, dans le don, il y a aussi un livre sur cette économie orange et puis des livres d'une institution qui, tous les ans, publie en fait des ouvrages sur des grands auteurs de République dominicaine.
À la traduction, Catherine Pellage, directrice de cette chaire d'études culturelles dominicaines. Pour l'ambassadrice, j'ai également demandé à quel point, parce que c'est Orléans, quand l'Université d'Orléans, pour la République dominicaine, c'était important ce type de relation avec une chaire qui est la seule au monde d'ailleurs. Maintenant, tout le monde, ouais, tous ceux qui voudront étudier les sœurs Mirabal devront venir à Orléans ou alors rentrer en contact avec Orléans. Écoutez la réponse de Madame l'ambassadrice.
Complètement importante, surtout en cette prestigieuse université, commencer avec cette cathédrale que muy bien ha dedicado Catherine Pellage a nosotros y en el cual vamos a desarrollar durante este año 2024. Vamos a traer
ce que dit Madame l'ambassadrice, c'est que pour elle, cette chaire est très importante, pour la République dominicaine également, comme diffusion de la culture. Et Madame l'ambassadrice explique que l'année prochaine, dans le cadre de la chaire d'études culturelles, certains des auteurs dont on a les livres viendront pour donner des conférences à l'Université d'Orléans. Exact.
On en parlera parce que avant la fin de ce mois-ci, il y aura un des plus grands écrivains dominicains. J'espère que tu seras là pour m'accompagner. En tout cas, j'ai envie de le rencontrer. Il y aura un film de diffuser également. Nous allons continuer à suivre cette chaire d'études des sœurs Mirabal. Des sœurs Mirabal, donc l'histoire que je vous racontais, ces femmes magnifiques de courage et de bravoure. J'ai demandé à l'ambassadrice ce qu'elle représentait pour elle en tant que femme. Écoutez la réponse.
Yo viví parte de lo que fue bueno, el asesinato de ella. Yo era pequeña, pero me he relacionado con toda su familia y sobre todo Minerva Mirabal, que se llaman las mariposas porque ese nombre era su nombre clandestino. Ella utilizaba el nombre Mariposa cuando se comunicaba con su esposo que estaba en la cárcel.
J'arrête l'interview là. Vous parlez espagnol ou pas? Attends, bouge pas, je ouvre ton micro. Ouais.
Moi j'ai pris allemand LV1, donc ouais, non, pas du tout.
Du tout, personne.
On peut comprendre un petit peu.
Oui, on comprend, mais ouais, non.
Elle est dit assassinée à un moment.
bon, on continue, on écoute la fin.
Entonces, para nosotros. Para, sobre todo las mujeres, esa mujer
Madame l'ambassadrice explique que quand elle était petite, quand les sœurs Mirabal ont été assassinées, donc leur assassinat a eu un très fort impact sur elle. Et même l'ambassadrice est en contact avec la famille des sœurs Mirabal. Même l'ambassadrice a rappelé à quel point les sœurs Mirabal sont des exemples de courage qui ont lutté pendant la dictature. Et puis également elle a parlé de Minerva Mirabal qui a obtenu son titre d'avocat mais qui n'a jamais pu parce que le dictateur Trujillo lui a interdit exercer en tant qu'avocate, et Madame José Hernández de Grullón y voit vraiment un symbole fort de résistance et une incitation pour les femmes à prendre leur espace dans la société. Et elle conclut en disant qu'il y a eu beaucoup d'avancées, mais qu'il reste encore beaucoup de choses à conquérir.
Je l'ai coupé au montage, mais juste derrière ça, j'ai dit « Venceremos », ce qui fait rigoler tout le monde. Allez voir, c'est à la bibliothèque de langue-lettres ou lettres-langues-sciences humaines, une centaine de livres très rares, bon, en espagnol évidemment, mais en même temps très important pour comprendre le sens du combat de ces femmes. Sœur Mirabal, une est restée vivante, hein, et la plus importante, je crois, enfin celle qui est restée dans l'histoire, qui a pris le prénom de Mariposa, l'ambassadrice en parlait, Papillon, on lui voue un vrai, vrai, vrai culte en République dominicaine. On restera, je vous disais, on reviendra vraiment sur cette chaire, parce que c'est une histoire, moi, que j'ai apprise il n'y a pas longtemps à l'occasion de l'accueil de cette chaire et qui me passionne réellement. Un peu de musique et on viendra terminer cette émission tranquillement. Vous avez encore des choses à dire? Moi, j'ai plus rien à dire. Bon, ben, je vous laisse le studio. When you can see the same reflection of city lights, but you're far away at sea, above the satellites, and the runaway. When the harbor master tries to switch off the lights, switch off the lights. La légende de l'afrobeat Tony Allen à l'instant avec Damon Albarn, Go Back sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours.
Abattons rompus sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours tous les mardis de 19h à 20h.
Et pour finir cette émission, on va faire deux choses à dire. D'ailleurs, coup de fil à l'instant après les interviews de nos deux étudiants dans Master. Victor, tu as décroché et tu as entendu une auditrice.
La personne n'était pas contente du tout. Elle expliquait que le discours, de notamment de l'étudiante en droit des affaires, ouais, était assez élitiste, assez puant à son point de vue, et qu'elle-même, ayant pratiqué de droit, elle était assez agacée qu'on diffuse ça à l'antenne.
On vous entend, auditeurice. C'est comme ça on dit, non ou pas?
Auditrice.
On vous entend. On a essayé de dire. Moi, je ne vais pas dire ce que j'en pense, mais Steven a eu l'occasion de vous expliquer ce qu'il en pensait.
Ouais, j'aurais pu en dire plus.
Mais en même temps, c'était une interview réalisée dans un cadre global, avec notamment celle qui était en droit social aussi. Donc voilà. Mais promis, on fera gaffe. Allez, deuxième chose, on va faire une actualité. On le fait de temps en temps avec toi, Steven, parce que tu suis vraiment ce centre de rétention administrative qui est pas loin de la fac, pas loin de la radio ici.
Oui, juste
où
à côté.
Actuellement, il y a des sans-papiers ou des, je sais pas quoi, des OQTF.
Oui, c'est voilà. Ça, des gens qui sont sous mesure d'éloignement. En fait. Oui.
Et il y a eu des manifestations, on en a parlé dans cette émission contre, mais alors il y a une actualité là.
C'est une actualité qu'on a pu aborder dans l'émission qu'on a fait le 25 février. Ces fameuses convocations qui ont été délivrées aux personnes qui sont en hébergement d'urgence, donc sans papier, qui sont en hébergement d'urgence, qui se sont vues délivrer une convocation par la PAF, la police aux frontières, directement, leur sommant de venir au centre de rétention administrative. Dans lequel but, on ne sait pas.
Mais bien sûr, je vais venir, monsieur. Je viens. J'ai pas de papier, j'ai rien, mais je vais venir.
Et les personnes qui y sont allées se sont retrouvées assignées à résidence. Sérieux? Avec une OQTF.
Voilà.
Donc, il y a eu ça qui s'est passé. Aujourd'hui, on doit être à peu près une trentaine de personnes qui sont enfermées au centre de rétention administrative. On a eu notamment pas mal de transferts du CRA de Rennes, parce que en fait le centre de rétention de Rennes est en fermeture pour travaux, donc ils transfèrent les personnes retenues là-bas directement au centre d'Olivet.
Ça doit être pratique pour voir la famille.
Ouais, c'est ça. Un petit mot du juriste. Comment ça se passe? Tu arrives dans ce CRA-là, le CRA, tu as encore des moyens de t'en sortir ou...
Alors, quand on arrive en centre de rétention, il y a plein de façons d'y arriver. Il y a des gens qui sortent de prison, oui. Et donc à la levée d'écrou, donc à la sortie de prison, on appelle ça levée d'écrou, oui. Ils sont directement transférés au centre de rétention. Donc voilà, il n'y a pas de sortie pour eux. Hein. Ils passent d'un enfermement à un autre. Oui. Il y en a qui c'est des interpellations, après ils sont en garde à vue, oui. Ou alors en ce qu'on appelle une retenue administrative. C'est une procédure qui permet de vérifier la régularité du séjour en France pendant en gardant la personne sous la main, le temps de faire ça. Donc voilà, globalement, il y a toujours une garde à vue, une retenue, une levée d'écrou, et donc on est transféré après directement au centre de rétention. Arrivé là-bas, on vous confisque vos affaires, évidemment. Vous avez le droit à un téléphone, sauf s'il a une caméra. Donc autant dire qu'aujourd'hui, tous les téléphones sont avec une caméra. Voilà, vous n'avez pas de téléphone.
Ou alors, faut un téléphone de dealer, quoi.
Voilà, c'est ça, il faut un téléphone de dealer. Et donc, arrivé là-bas, on vous notifie vos droits, on vous dit vous avez le droit de voir un médecin, vous avez le droit de voir un avocat, vous avez le droit de communiquer avec l'association qui est dans le centre de rétention. Nous, à Orléans, Olivier, c'est France Terre d'Asile.
D'accord.
Et également de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. Ouais. Donc voilà. Donc on vous notifie vos droits et puis après, vous avez une cellule, en fait, tout simplement. Et après, ça se passe comme dans une prison, à l'exception que vous pouvez circuler librement dans les zones prévues pour la circulation.
Ouais. Tu es non seulement juriste, mais tu fais partie de la CIMADE. Oui. Vous avez accès aux enfermés ?
Non, pas. En fait, il y a qu'une association qui a le droit, c'est celle qui a un marché public avec le ministère de l'Intérieur.
Sûr, ouais.
Et donc, c'est Centre France d'Asile à Orléans. Après, effectivement, la CIMAD, par exemple, au Mélinamlo, je pense à lui parce qu'il y a eu pas mal de trucs. Il y a eu pas mal de trucs récemment dessus.
Absolument.
Et c'est la CIMAD, en fait, qui intervient là-bas. Ouais. Et donc, toutes les autres associations, toutes autres personnes qui vous rentrer, il vient en tant que visiteur.
D'accord.
Et donc, pour être visiteur, il faut venir voir quelqu'un. Donc, il faut avoir son identité. Donc, si on n'a pas les identités, on ne peut pas venir voir les personnes. Après, à Orléans, on a aussi un gros souci. On le sait tous, hein, Orléans, c'est un désert médical.
Bien sûr.
Donc, on n'a pas de soins pour les gens.
Forcément.
On n'a pas de soins déjà pour nous. Alors, demander à ce qu'il y ait des médecins en permanence au centre de rétention, c'est compliqué. Donc, il y a de fortes questionnements à se poser, je pense, de ce côté-là, sur l'accès aux soins réels des personnes en centre de rétention. Donc, voilà, ce serait peut-être un point de vigilance. Et après, de toute façon.
C'est surtout un point, il va falloir absolument que l'on pose la question. Quoi. On va le faire, d'ailleurs.
Et puis, d'ailleurs, il y a les audiences, hein, tous les jours, quasiment, même les week-ends, il y a des audiences, c'est public. Donc, à partir de 10h au tribunal judiciaire d'Orléans. Oui. Voilà, si vous voulez venir voir comment ça se passe, ça se passe là-bas.
Ah bon, c'est possible ?
C'est possible, c'est public.
D'accord.
Donc les audiences sont publiques, donc même les rendus de décision sont publics. Donc, et oui, il y a une salle qui est prévue pour ça.
Ok, mais merci pour ces informations, Steven. Merci
aussi.
À toi d'être venu à ce moment
dans
cette émission.
Toi.
Tu reviens quand tu veux, dans 15
avec
jours.
Avec plaisir.
Avec Christine Angot dans le sac.
On espère.
dans le cabas, on va voir. Voilà. J'espère qu'elle ne va pas te cracher à la figure.
J'espère.
Elle a pu me faire un jour.
Elle est très contradictoire sur les interviews. C'est très difficile.
Bref. Victor, merci. Steven, merci.
Merci à toi, Hassan.
Allez, on va se quitter. Alors, normalement, il y a Raiden qui doit arriver, je pense. On va se quitter, nous, en tout cas en musique, avec un inédit, tu le crois ça, de James Brown. Là.
Ah bon ?
Oh, bah oui, il y a un truc qui est sorti maintenant, quoi. Qui a été exhumé à l'occasion de la série documentaire. Il y a une série documentaire sur lui, Say It Loud. Donc c'était un morceau qui était enregistré en août 70 et on ne sait pas pourquoi il n'a pas voulu le sortir. En plus, il y a des super musiciens dessus. Ça s'appelle We Gotta Change. À l'époque, dans les années 70, on reprochait beaucoup à James Brown de ne pas s'investir dans la lutte des Noirs.
Et bien,
il avait sorti ce... Il avait fait ce morceau en studio et il n'avait pas sorti. Et ça sort maintenant. C'est avec ça qu'on se quitte.
1, 2, 3, 4.
Passez une belle semaine. La semaine prochaine, les amis du monde diplomatique.
Get on the line.
Yeah.
Swing on the vine.
Yeah.
Get in the bracket.
Yeah.
You know I like it. In the jungle. Get in the bracket.
Yeah.
You know I like it.